l'échelon national de confier le pouvoir à quelqu'un qui n'est pas en phase avec nous.
T'as raison de poser la question. Réponse
secondes.
De Franck.
15
Vas-y.
Secondes. Jean 15 Jaurès secondes. Disait « Un peu d'internationalisme éloigne de la nation, beaucoup y ramène ».
Ouais,
voilà.
Allez, on va clôturer sur cette phrase de Jean Jaurès. C'est un très beau symbole. Merci pour votre participation. L'émission Acétone est maintenant terminée. On a fait une table politique Europe Écologie Les Verts et avec le PCF local. C'était très très sympa, messieurs, de vous avoir entendu sur ces élections européennes pour le Parlement européen. Merci beaucoup d'avoir
Merci
pris
beaucoup
ça,
vous.
D'avoir pris
Merci
ça
beaucoup.
Au sérieux,
eh ben...
d'avoir débattu élégamment en gentleman.
Très agréable.
Voilà, on peut vous dire merci là-dessus. Merci Jean-Luc aussi de ta participation et de tes questions. Tu peux dire au revoir aux auditeurs.
Au revoir, puis à la semaine prochaine.
Oui, et puis à la semaine prochaine. D'ailleurs,
oui.
Hélène, semaine prochaine,
oh oui,
c'est quoi la prochaine C'est quoi la prochaine table politique la semaine prochaine
oui, c'est moi la prochaine table. Mais donc, j'espère qu'on va
ouais,
pas
mais
discuter
mais quels
dessus,
sont les partis politiques qui viennent
France Insoumise et Révolution Permanente, si toutefois. Enfin, c'est bon. Le terrain est bon.
Le terrain est bon.
Ouais.
Et
juste,
Romain, vas-y.
J'ai une petite pub à faire, c'est que demain, on a Benoît Biteau, le candidat aux élections, et, qui sera présent à Pessac à 18h30. Celle Roger Coé, voilà, avec Laure Curval qui est notre candidate locale. Voilà.
J'ai aussi une petite pub à faire dimanche 19, donc dimanche qui vient, à Bègles à partir de midi, parc de Mussonville, le retour de la fête de l'humanité gironde.
Ah oui.
Voilà, oui, effectivement. Et je crois qu'il y a un débat aussi samedi à 15h, je ne sais plus, au théâtre là, que vous avez cours de l'intendance. Il y a France Insoumise aussi qui fait un débat sur l'Europe. Voilà. Donc, je pense que les rendez-vous ont été dits. Allez, à que ciao, bonsoir, à la prochaine et à mercredi prochain.
Merci, au revoir.
Merci.
Imaginez toujours les guérisons de nos morsures.
Quelle figure les noms de 3900 hommes et femmes ayant contribué à sauver des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Hier, mardi, c'était justement la commémoration de la rafle du billet vert. Le 14 mai 1941, 3700 juifs de la région parisienne étaient arrêtés puis déportés, préfigurant la rafle du Vel d'Hiv. Hier, c'était aussi la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Elle a été marquée par la présence uniquement de femmes sur scène. La libération de la parole des femmes se poursuit avec toujours de nouveaux témoignages de violences sexuelles. Le dernier en date, c'est l'ancien producteur Alain Sard, accusé de viol et agression sexuelle par 9 femmes. Le collectif 50-50 note de son côté que la place des réalisatrices dans la programmation du Festival de Cannes est en léger recul. Seulement 29% des films sélectionnés cette année ont été réalisés par des femmes, contre 31% l'année dernière. Et ce chiffre, il est tiré vers le haut par les sélections secondaires, tandis que la sélection principale, la sélection officielle du Festival de Cannes, ne compte, elle, que 20% de réalisatrices. Enfin, dimanche, nos confrères de Radio France étaient en grève pour défendre la liberté d'expression. On savait déjà que les émissions La Terre au Carré, C'est bientôt demain sur France Inter, également Nowou et Vert de Rage sur France TV allaient être supprimées. C'est maintenant l'émission Planète Bleue diffusée sur France Bleu dont on apprend la suppression. Et cela alors que les parlementaires examinent depuis hier le projet de fusion entre Radio France et France TV avant une discussion à l'Assemblée nationale qui aurait lieu les 23 et 24 mai prochains sur ce sujet. Jour où les salariés de Radio France appellent à la grève. Et c'est aussi à nous, public, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices du service public de l'information, de les soutenir et d'essayer d'empêcher cette destruction. Midi 13 à Bordeaux, je le disais, ce week-end se tiendra à Bordeaux le 92e congrès de la Ligue des droits de l'homme. L'occasion pour nous de revenir sur cette organisation fameuse, centrale quand même en France et à gauche. Organisation fondée en 1898 dans le cadre de l'affaire Dreyfus. par quelqu'un qui était d'ailleurs à l'époque sénateur de la Gironde et qui fut l'instigateur de la révision du procès du capitaine Dreyfus. Il s'agissait de Ludovic Trarieux. 126 ans plus tard, la Ligue des droits de l'homme continue de défendre les droits humains, notamment les libertés individuelles et collectives. Pour en parler, j'accueille Manuel Diaz-Vaz. Bonjour Manuel.
Bonjour.
Tu es coprésident de la Fédération de Gironde de l'ALDH et vice-président de la section de Bordeaux. Tu vas être rejoint dans une poignée de minutes par Pierre-Antoine Cazot, qui est coprésident de la Ligue des droits de l'homme de Bordeaux et qui arrive bientôt dans nos studios. Et puis, nous sommes également au téléphone avec Félicien Faury. Bonjour Félicien.
Bonjour.
Tu es sociologue et politiste, auteur d'une enquête sur la normalisation de l'extrême droite. Ça s'appelle « Des électeurs ordinaires » et c'est paru au Seuil. Et on sera avec toi plutôt en deuxième partie d'émission pour parler de cette question de l'extrême droite. On commence, Manuel, en disant un mot de l'ALDH et de comment se porte l'ALDH. Il y a un peu plus d'un an, en avril 2023, Gérald Darmanin menaçait de retirer à l'ALDH toute subvention publique. C'était après la manifestation contre les méga-bassines de Sainte-Soline, sur laquelle l'ALDH avait envoyé des observateurs et rédigé un rapport accablant sur l'attitude des forces de police et de gendarmerie sur place. Ça avait déclenché une levée de boucliers, un appel « Ne touchez pas à l'ALDH » signé par des centaines de personnalités. Comment se porte l'ALDH un an plus tard, Manuel Diaz ?
L'ALDH est de plus en plus forte dans la mesure où les questions qui nous anime et sur lesquels nous nous sommes positionnés depuis plus d'un siècle, sont de plus en plus d'actualité. Nous vivons dans une société où la peur, effectivement l'État autoritaire et en même temps la menace permanente des droits sociaux et des droits tout court, est en train effectivement de s'effriter. Depuis cette attaque contre notre existence et en même temps contre les valeurs que nous défendons, nous avons vu nos adhérents multiplier. Nous avons plus de 20% de plus de nouveaux adhérents, ce qui a permis effectivement de requinquer et en même temps d'ouvrir un peu plus la Ligue des droits de l'homme sur la société. Et nous avons à cette occasion accueilli un nombre assez impressionnant de jeunes qui ont effectivement voulu témoigner par leur adhésion, leur attachement aux droits humains et au combat pour la liberté.
Ça veut dire au final que ces menaces, ces attaques de Gérald Darmanin vous ont renforcé ?
Nous pouvons lui dire merci à cet abruti qui nous a effectivement fait de la publicité. Nous avons également, à cette occasion, démontré quels étaient à la fois les engagements, les convictions et en même temps les valeurs fondamentales sur lesquelles nous sommes présents, à la fois en France, en Europe et dans le monde, parce que la Ligue des droits de l'homme, elle est présente dans 152 pays dans le monde. Et notre combat est un combat universel. Notre combat, et de toute manière, le combat pour les droits est un combat qui n'a pas de frontières.
Alors, on va tout de suite dire un petit mot quand même de ce congrès. Donc c'est samedi, dimanche, lundi que se tient ce congrès donc national de la Ligue des droits de l'homme. C'est un rendez-vous des militants, militantes, adhérents, adhérentes de la LDH, mais aussi avec une partie qui est ouverte au public. Ça commence je crois vendredi avec une table ronde, un village des libertés le samedi, des expositions aussi. C'est là aussi, Manuel, un moyen de continuer à s'ouvrir et faire connaître la Ligue des droits de l'homme.
Nous, à Bordeaux et en Gironde, en accueillant ce congrès, nous n'avons pas voulu faire un événement fermé. Nous avons voulu faire un événement ouvert à la société, ouvert au public. Donc, premièrement, le 17 mai, à 19h, à la Halle des Douves, nous allons organiser une table ronde avec des personnalités sur le thème « Sommes-nous toujours en démocratie ?» avec un point d'interrogation. Moi, j'aurais tendance à dire que le point d'interrogation est de moins en moins pertinent parce qu'effectivement, nous ne sommes plus en démocratie. Aujourd'hui, la manière dont notre pays est gouverné est très inquiétante. le samedi toute la journée sur la place de la Victoire. Nous allons faire un village associatif, qui est le village des droits et des libertés, pour permettre d'abord à tous ceux avec lesquels nous travaillons au quotidien, ici sur la place de Bordeaux et sur la Gironde, de pouvoir venir partager avec nous et en même temps organiser un agora des droits, un moment, effectivement, en débat avec le public, pour, il y a ce qui se passe dans le congrès, et puis il y a ce qui se passe à côté du congrès, et à mon avis, et à notre avis, ce qui se passe en parallèle est aussi important que ce qui se passe à l'intérieur de la salle de congrès.
Et d'ailleurs, la Clé des Ondes sera présente lors de ce village.
La Clé des Ondes sera présente avec des dizaines d'autres associations avec lesquelles nous partageons le combat pour les droits et nous partageons les mêmes valeurs. Donc c'est l'occasion également pour nous tous de réfléchir ensemble et de créer une nouvelle dynamique, parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui rester enfermés sur un sentiment d'échec ou certainement un sentiment d'impuissance. Parce que s'il y a quelque chose dont je suis observateur, presque à 80 ans, ayant vécu 18 ans dans un régime fasciste...
Au Portugal, de Salazar.
Au Portugal, dont nous venons de commémorer les 50 ans de la Révolution portugaise, j'ai un peu l'impression que nous vivons dans une société où la déception, le malaise et en même temps le mal-être a pris le pas sur l'espérance. Il faut donner de l'espoir, permettre à nous tous de dépasser nos divergences, parce que ce qui est essentiel pour nous, c'est l'unité. Ce n'est pas l'unité à tout prix, mais c'est l'unité qui, si on n'est pas uni, on ne pourra pas gagner. Et si on n'est pas uni, on n'est pas audible. Je pense que dans la lutte contre l'extrême droite, ce qui est essentiel, c'est que nous puissions nous unir. En 1936, la Ligue des droits de l'homme avait proposé effectivement un programme d'unité nationale, et ça a permis effectivement de créer une respiration démocratique qui a été balayée à partir de 38-39 par ce qui s'est passé après. Mais je pense, dans des moments de crise, il faut que l'ensemble des forces progressistes, partis politiques, organisations syndicales, associations et autres, puissent effectivement créer les conditions d'une unité et en même temps créer les conditions d'une communication et d'une relation, être à l'écoute du peuple, parce que je pense qu'une partie, on a perdu une partie de la confiance des classes populaires. Et ce que a aujourd'hui fragilisé la gauche et les mouvements progressistes, c'est cette rupture, cet éloignement des quartiers populaires et des classes populaires, parce qu'on ne pourra pas construire l'unité, on ne pourra pas construire une alternance en faisant abstraction de ce qui est et ce qui doit être le rôle des classes populaires dans cette conquête des libertés.
Alors, on va revenir sur tout ça, Manuel. Peut-être, avant, revenir quand même sur ce qui vous alerte. Tu en as dit un mot, cette montée de l'extrême droite. En 2017, en 2022, Marine Le Pen est arrivée au second tour de l'élection présidentielle. Le Rassemblement national est aujourd'hui perçu médiatiquement comme une des principales forces politique, la parole de ses représentants s'est banalisée, est devenue omniprésente dans les médias, la liste RN est créditée de plus de 30% des intentions de vote aux prochaines élections européennes. Samedi dernier, il y avait 600 militants d'extrême droite néo-nazis dans les rues de Paris qui défilaient. On pourrait aussi citer les nombreuses attaques de militants d'extrême droite contre des collectifs de gauche, à Bordeaux comme ailleurs en France, qui ont eu lieu ces derniers mois. Tout ça fait qu'on peut vite avoir l'impression d'une montée irrépressible à la fois de l'extrême droite et de ses mouvements les plus violents et fascisants, et qu'on peut vite avoir très peur de tout ça. Je voulais vous demander ce que vous, à la LDH, vous reteniez de tout ça, comment vous analysiez tout ça, et qu'est-ce que vous identifiez ? Est-ce que vous aussi, vous avez peur ? Et est-ce qu'à un moment, il ne faut pas dire aussi, quand on a peur, même si c'est un élément sans doute sensible de le reconnaître, voilà, comment vous analysez un petit peu tout ça, Manuel ? Et puis, je salue Pierre-Antoine Cazot qui vient d'arriver. Bonjour Pierre-Antoine.
Bonjour Baptiste.
Tu es co-président de la Ligue des droits de l'homme de Bordeaux et membre du bureau national, c'est ça ?
Non, du comité national.
Du comité national. Qui veut répondre là-dessus, Manuel ?
Je pense que, d'abord, en rectificatif, il n'y a pas de néo-nazis, il y a des nazis tout court. Nous assistons aujourd'hui, en France, en Europe et dans d'autres pays, à une émergence des forces d'extrême droite qui sont les héritiers de nazis. Ce n'est pas des néo-nazis, c'est des nazis tout court. Il faut appeler les choses par leur nom. Il ne faut pas avoir peur. Quand on est des démocrates, il ne faut pas avoir peur. Il faut être vigilant. Il faut être conscient. La peur nous tétanise. Il faut que nous puissions dépasser notre peur, avoir confiance en nous et avoir confiance dans le peuple, avoir confiance dans la démocratie et dans un état de droit. Et moi, je pense que c'est ça l'essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, ou depuis quelques années, nous avons perdu une grande partie des classes populaires. L'abstention, qui est un drame pour la démocratie, fait qu'un certain nombre d'hommes et de femmes dans notre pays qui souffrent n'ont plus confiance et s'abstiennent. Et l'abstention donne une force inimaginable à l'extrême droite. Et donc, c'est effectivement, il faut prendre conscience de ça, investir les quartiers populaires, assumer nos responsabilités et être en capacité de sortir d'entre soi. Être en capacité d'aller à la rencontre des gens, pouvoir communiquer avec eux. C'est pour ça que nous avons initié ici à Bordeaux ces villages des droits et ces villages associatifs de samedi prochain pour que nous puissions investir la place publique. Ne pas lâcher la place publique à l'extrême droite. Eux, ils sont offensifs. Il faut que nous, on prenne notre place.
Pierre-Antoine Cazot, comment toi tu réagis ? Qu'est-ce que tu analyses ? Quel peut-être danger tu vois et quel est ton état d'esprit face à tout ça ?
Ouais, déjà, je rejoins Manuel complètement sur son analyse. Il faut d'abord prendre conscience que ce sont nos institutions démocratiques qui sont le meilleur rempart contre les violences et les dangers que représente l'extrême droite, et en particulier celle qui vient d'être évoquée et qui effectivement peut non seulement commettre des violences, mais avoir des projets assez graves. Je veux dire, si on regarde les risques d'attentats en France déjoués par l'extrême droite sont extrêmement nombreux. Pas qu'en France d'ailleurs, hein. C'est un phénomène qui est mondial. On le retrouve partout en Europe, on le retrouve aux États-Unis, on le retrouve en Amérique latine, etc. Mmh. Donc il y a un vrai danger. Et il y a aussi effectivement une forme de violence qui est en train de se décomplexer. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une parole qui est en train de se décomplexer totalement, et qui est liée aussi à des médias qui alimentent ce sujet, et parfois de manière un petit peu moins caricaturale ou disproportionnée que les nazis. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit proportionné, mais des chaînes comme CNews, tout l'Empire Bolloré, effectivement, déversent des idées d'extrême droite qui font que les plus radicaux d'entre eux se sentent d'autant plus légitimes à prendre leur position que le spectre du débat politique se décale un peu à l'extrême droite. Et je pense qu'effectivement, il faut tenir la ligne des principes et des valeurs qui sont les nôtres, pour nous républicaines, et puis des défenses des droits, voilà, des droits et des libertés.
Félicien Faury, tu nous écoutes depuis tout à l'heure la discussion. Je rappelle que tu es sociologue et politiste, auteur d'une enquête sur la normalisation de l'extrême droite et de ses électeurs, les électeurs ordinaires, ça s'appelle. Je voulais quand même, avant de te faire préciser ce que tu as analysé auprès de ces électeurs et qui est dans ton livre, toi qui es beaucoup sollicité ces derniers temps suite à ce bouquin dans les médias, quel regard tu portes sur ces réactions, sur cette actualité de l'extrême droite et ce qu'elle déclenche comme réaction chez les non-électeurs de l'extrême droite, Félicien Faury?
Oui, merci pour ta question. Ce que j'ai pu remarquer avant tout en fait sur mon terrain, parce qu'effectivement j'ai beaucoup travaillé sur donc ces électeurs qui votent ou ont déjà voté pour le Rassemblement National, mais il m'est, parce que j'habitais là-bas, donc il m'est aussi arrivé de discuter avec des personnes de gauche ou en tout cas qui sont hostiles à l'extrême droite, à ses idées, au Rassemblement National. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait deux sentiments, on pourrait dire. C'est premièrement un certain sentiment d'impuissance pour les personnes qui se situent à gauche et qui sont hostiles en fait au Rassemblement National, mais qui, dans les territoires du Sud-Est dans lesquels j'ai travaillé, se sentent assez seuls. Mais même en termes de rapport de force électoraux, en fait, c'est des territoires où la gauche est très faible, y compris en termes de structure associative, syndicale, etc. Où voilà, on a l'impression que il y a un certain fatalisme qui peut s'installer. Et à côté de l'impuissance, il y a aussi quelque chose qu'il faut regarder en face, c'est de l'indifférence. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont habituées en fait au fait que le RN fait partie du paysage politique local et national, et qui sont très déçues aussi de la gauche et de la droite, et qui donc ont une défiance et une distance vis-à-vis du champ politique qui est très forte. Et donc, voilà, le RN, est-ce que ça va faire une différence fondamentale? Et il y a, voilà, ce sentiment de, bon, de toute façon, ça me regarde pas, c'est pas mon monde, la politique, ça m'intéresse pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et qui se traduit effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, par de l'abstention. Et l'abstention à gauche est effectivement, en termes électoraux, ce qui favorise considérablement le Rassemblement National, y compris et notamment même pour des élections intermédiaires du type des élections européennes.
Alors, on a un peu commencé à le dire, il y a une normalisation médiatique, une évolution aussi du champ politique avec la diminution de la droite classique, la place qu'a pris le macronisme, qui peut expliquer un peu l'évolution de l'extrême droite. Mais si on s'intéresse aux électeurs, ce que tu as fait, Félicien, qu'est-ce qui, d'après toi et d'après ton enquête, a rendu le fait de voter pour le Rassemblement National ou pour l'extrême droite en général un geste normal, acceptable, banal, Félicien ?
Oui, en fait, il faut à chaque fois situer le propos, c'est-à-dire que le vote RN reste un vote illégitime dans une grande partie encore de la société. Mais c'est vrai qu'il y a certains groupes sociaux concrets, certains espaces locaux où le RN, en fait, devient un vote banal, légitime, voire valorisé dans certains cas. Ce qui a été, me semble-t-il, assez frappant sur mon terrain, c'est l'installation de formes de consensus locaux sur ce qui est normal ou non, ce qui pose problème, sur ceux qui posent problème aussi, c'est-à-dire voilà, il y a aussi une certaine forme de racisme ordinaire qui se déploie sans frein en fait et sans contre-discours. Ça me paraît très important, cette idée de voilà, il y a des énoncés, il y a des discours qui peuvent se diffuser sans contestation locale dans les conversations ordinaires. Et tout ça, me semble-t-il, c'est ce qui vient légitimer en partie cette normalisation qui est pas seulement politique ou médiatique, même si c'est très important de le mentionner, mais qui se joue aussi dans l'ordinaire, dans les conversations communes et dans les espaces locaux, en tout cas situés socialement et géographiquement.
Qu'est-ce qui permet ça justement ? Est-ce que c'est le fait que il y a une sorte d'effet de seuil, et plus il y a d'électeurs ou de sympathisants, plus ça favorise ces espaces locaux et donc qu'il y ait à nouveau de nouveaux électeurs ou sympathisants ? Est-ce qu'il y a des éléments plus stratégiques de la part de l'extrême droite qui ont été d'être présents dans ces lieux-là dont tu parles, Félicien, Faurie ?
Oui, il y a deux choses. Effectivement, c'est quelque chose d'assez frappant, c'est qu'il y a une forme d'effet de boucle. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, il y a le sentiment que le vote RN, c'est une option de plus en plus légitime, mais aussi de plus en plus partagée. C'est-à-dire qu'on me dit, une phrase que j'ai beaucoup entendue, c'est, vous savez, ici, tout le monde vote Marine. Ici, ce que je vous dis, tout le monde vous le dira. Autour de moi, personne n'a voté Emmanuel Macron au second tour de 2022. Et ça, en fait, ça permet de légitimer par le nombre le vote RN, qui a été souvent stigmatisé, qui était considéré comme un vote honteux pendant longtemps. Mais là, étant donné qu'on voit les scores électoraux, qu'autour de soi, beaucoup de personnes ont déjà voté, donc encore une fois, Marine Le Pen qui appelait par son prénom. En fait, du coup, il y a un effet d'auto-entretien, en quelque sorte, de on a l'impression que ça vote beaucoup, donc on est légitime à voter pour ce parti, y compris au niveau local. Et ça entretient les scores. Et juste sur la question peut-être de la normalisation, il y a une stratégie de normalisation du RN, mais qui enfin, ça me semble important d'insister que ce n'est pas un phénomène nouveau du tout. C'est-à-dire qu'on le date souvent de l'arrivée de Marine Le Pen en 2011, mais en fait, depuis sa création, le RN met en place cette stratégie de normalisation, et même on pourrait dire qu'il a été créé pour ça, parce qu'en fait, c'est un parti qui a été créé par un groupuscule fasciste, hein, donc Ordre Nouveau, en 1972, et le but de la création de ce parti, c'était justement d'offrir une façade légale, légitime, pour notamment se présenter aux élections et pour diffuser les idées d'extrême droite de manière respectable au sein de l'espace public, du champ politique, de l'espace médiatique. Donc en fait, la raison d'être dès le départ de ce parti a été de cette normalisation des idées d'extrême droite, c'est-à-dire sa banalisation et une exposition médiatique et politique supérieure de ces idées. Mmh. Et force est de constater que ça n'a cessé d'être nourri depuis.
Juste avant de faire réagir Manuel Dias de la LDH, tout à l'heure Manuel parlait de la question des quartiers populaires, des classes populaires. Il me semble, Félicien, que tu insistes aussi sur le fait qu'il y a cette question des inégalités de classe et de quel discours porter pour les personnes des classes populaires sur cette question des inégalités de classe, mais qu'il y a aussi la question des inégalités ethno-raciales, en gros du racisme, chez les électeurs de l'extrême droite du Rassemblement National, qui est extrêmement prégnante, en tout cas là où toi tu as enquêté, c'est-à-dire notamment chez les électeurs du sud-est de la France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et de l'importance de cette question du racisme dans ces choix électoraux aujourd'hui?
Oui, ça c'est un... Après, je pense que moi j'ai pu l'observer dans le sud-est, mais il y a en fait là, beaucoup de statistiques électorales qui montrent que c'est en fait ce qui caractérise et ce qui distingue l'ensemble de l'électorat du RN. Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder avec lucidité. Peut-être un chiffre, en 2022, de manière très récente, le CEVIPOF, il avait posé une question de « Pensez-vous que la plupart des immigrés ne partagent pas les valeurs de notre pays ?» Il y avait 92% de l'électorat RN qui répondait que oui, selon les personnes interrogées. Ça descend à 70% pour l'électorat de droite. Donc moi, si vous voulez, je pars de ça, en fait, d'un résultat qui est assez connu, et j'essaie de vous montrer comment ça se passe concrètement, comment ça se déploie et comment c'est autant entretenu et légitimer. Et par contre, sur la question des inégalités ethno-raciales, il faut ne pas se raconter l'histoire et bien voir que les électeurs du RN, dans leur majorité, sont du bon côté des frontières raciales, si je puis dire, qui traversent encore la société française. Et par contre, du point de vue des inégalités de classe, ce sont les personnes qui sont encore actuellement davantage dans une position dominée. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de l'éloignement de la gauche des classes populaires, en tout cas des classes populaires blanches, avec cette idée de distance sociale qui, moi, revient beaucoup, en fait, dans les entretiens. C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée que la gauche, par tout un ensemble de prises de position, mais aussi de manière de faire, manière d'être, manière de vivre, manière de parler, en fait, font partie d'un monde qu'on estime distant, en fait, de son propre monde et de ses propres manières de faire et de vivre. Et ça, cette distance sociale, effectivement, elle doit être... elle doit être travaillée, elle doit être cassée avec l'investissement dans les territoires populaires par les associations, les syndicats, les partis politiques. Et aussi, il me semble, c'est important en termes de recrutement associatif au sein des partis politiques, au sein des syndicats, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de sélection sociale trop importante à l'entrée de ces structures.
Manuel Dias de la LDH, tu voulais réagir à tout ça?
Moi, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Je pense que l'analyse est juste. Maintenant, il faut effectivement aller passer le constat à l'action et passer le constat de la peur à l'action de terrain. Mais je voudrais également rappeler deux choses. C'est de dire que nous assistons depuis au moins 10 ans, au fait que certains médias puissants banalisent les idées du Front National. Donc c'est comme ça, c'est un élément constitutif de la démocratie. Alors que ces partis, et la plupart des gens qui constituent ces partis, sont véritablement les héritiers du nazisme et les héritiers effectivement du fascisme. Moi qui ai vécu pendant 18 ans dans un pays fasciste, je peux vous dire ce que ça veut dire souffrir dans sa peau d'être face à des gens comme ça. Parce qu'eux, ils sont là effectivement pour vous endormir et ensuite ils sont là pour vous détruire. On vous endort pour vous détruire. Avec ces gens-là, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'avenir. Il faut en être conscient et prendre ses responsabilités. La deuxième chose importante qui me semble nécessaire à prendre conscience aujourd'hui, c'est la nécessité pour nous, les forces progressistes, de dépasser effectivement nos conflits internes, notre enfermement sur nous-mêmes, notre compte à soi. Aller à la rencontre de l'autre, ça veut dire qu'on est ouvert au dialogue et qu'on va